Sila. Darren.
Allô?
Allô, Nabil?
Ok, on arrive.
On est en bas.
Ok.
Bonjour.
Madame, vous allez bien?
Bonjour, Susanna.
Oui.
Je vais là?
Non.
Je vais te prendre.
Oui. Bonjour.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Aujourd'hui, nous sommes à Orléans, dans le centre de la France, chez Narench, le restaurant de Nabil et Susanna Attar. Nabil et sa famille sont arrivés ici en 2015. Ils ont dû fuir leur pays, la Syrie, pour trouver refuge en France. Quitte à changer de vie, ils se sont dit, autant réaliser un rêve. Celui de Nabil, banquier à Damas, celui de devenir cuisinier. Nabil, je l'ai rencontré, il était le chef de la résidence, le restaurant du Refugee Food Festival. Il travaillait à son projet, ouvrir son restaurant. Narench a ouvert au printemps 2018.
Merci de nous accueillir.
Ah, merci madame, merci monsieur. Est-ce que vous voulez dans cette salle ou la deuxième salle? Peut-être la deuxième salle, c'est...
C'est vous qui connaissez l'endroit. Ah, ce tableau-là, je le reconnais.
Ce tableau, c'est le... Comment on a fait... il est fait les glaces.
D'accord.
De l'ancien. Il a cassé les glaçons pour les glaces. Pour faire les glaces.
Et c'est un glacier, du coup, c'est un...
Oui, un glacier ancien.
Et c'est les pâtissiers qui faisaient les glaces à Damas,
bien
je
sûr.
Crois.
Oui, les pâtissiers, oui. C'est une matière, c'est très ancien.
Ouais. Avec le sarlab.
Avec le sarlab, oui. On trouve le salab juste en Syrie, Liban, Turc. Parce qu'il y a autre chose, ils vendent comme le salab, mais c'est comme la farine.
D'accord,
c'était pas le salab.
D'accord. Oui.
Il ne peut pas donner le même goût ou texture. Non, pas du tout. C'est notre tradition. C'est quelque chose, on a, comme le croissant en France. Pour vous, c'est facile pour trouver ces croissants en eau. Oui. Comme un exemple, en Syrie, on a croissant, mais croissant farci avec le zaatar.
D'accord, ok.
Zaatar, c'est-à-dire le mélange des épices comme le thym, origan, tout ça. On a fait le croissant farci avec ça, mais en France, on ne trouve pas.
La tradition de pâtisserie en Syrie, elle est plutôt d'Alep, de Damas. Est-ce qu'il y a une ville où la tradition est plus grande encore?
Chaque ville, il y a des pâtisseries spéciales. En Damas, c'est la pâtisserie de glace. C'est très connu. La ville d'Alep, on trouve que autre chose. C'est trop bon aussi. Mais chaque ville.
Le chef est là.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
À moi, un bisou.
Oui, bien sûr.
Ça fait tellement longtemps.
Oui, tout à fait.
Je suis tellement heureuse d'être ici. C'est super.
On parle de cette photo.
Ouais. J'ai écrit Narench. C'est un tableau, un de trois qui ma sœur a fait. Comme un cadeau pour le restaurant.
Et alors, il y en a deux autres, c'est ça?
Oui, là, il y a l'orange amer, une herbe dans la maison de mon grand-père. C'est exactement...
C'est comme ça.
C'est comme ça.
Et c'est quoi comme ça? Alors, du coup, il y a un escalier, il y a une fontaine.
Un petit escalier pour les chambres à la deuxième étage. Une fontaine, oui. Toutes les fleurs et l'herbe d'orange amer, elle a fait colorer exprès que ça pour sortir dans ce tableau.
Et ça, c'est le bigaradier.
Oui, tout à fait, hein? Celle-ci.
Et si vous avez appelé votre restaurant Narench, c'est vraiment symbolique de la Syrie pour vous.
Oui, de Damas.
De Damas. Mais ça, un symbole de Damas, ancienne maison.
Vraiment, le fleur, l'odeur de ces fleurs-là, c'est magnifique. Oui. J'ai arrivé à pousser 4 pépins que ma mère m'a envoyé de cet arbre.
Du bigaradier?
Oui.
De votre grand-père?
Un comme ça, oui. 25 cm maintenant. Et il y a 3 autres, plusieurs tailles.
D'accord.
Oui.
Je vous suis?
Oui.
Ouais. Ah, donc c'est là l'antre du chef.
C'est ma cuisine.
Ouais. Quand est-ce que vous avez mis la première fois les pieds ici, dans cette cuisine, tous les deux?
C'était février 2018.
Elle est bien parce qu'elle est assez large.
Mmh, oui,
c'est large. On peut travailler ici plus que 10 cuisiniers.
Okay. Et ça, vous avez fait quoi alors? Ça devait être fou, non? Quand vous êtes arrivés ici, tous les deux.
On ne croyait pas que c'est une vérité. C'est maintenant quelque chose de... Il existe concret, oui. on a pensé que c'était qu'un rêve. Ouais.
Ça vous a fait quoi, vous, Susanna? Vous êtes venue avec les enfants, peut-être aussi?
Oui, les enfants, ils étaient... C'est comme un rêve, oui. C'est quoi? C'est grand, c'est quelque chose de nouveau pour les enfants. Merci. Parce que nous sommes les deux pas dans ce métier. Et pour rentrer dans la cuisine pour un restaurant, c'est quelque chose...
Je leur dis que peut-être on va avoir un restaurant. Ils me disent, ah, c'est où? On avait marché juste devant, regarder...
à travers la vitre, comme j'ai fait.
Oui, peut-être on va voir ça. Oh non, ça, c'est génial. Et le jour où on a pris les clés, on a tout venu, les quatre. C'était, tu te rappelles, c'était...
C'est génial, oui, c'est génial.
Ça devait être très émouvant.
Oui. On vient de mettre le premier vrai pas en France. Donc c'est quelque chose de concret, quelque chose, la première vraiment étape concrète. On a quelque chose à nous, oui, ici.
Construit.
Oui.
Par vous.
Oui, par vous et pour
nous. Oui. Quelque chose pour nous, comme le plan, comme un petit plan. On a arrosé, plante arrosée et secoue pour grandir. Oui, c'est le même. Oui.
Ça devait être fou. Ils ont quel âge d'ailleurs vos enfants?
Maintenant, 10 ans et 15 ans.
Quand vous êtes arrivés à Orléans, parce que le premier endroit où vous avez vécu, c'est ici, à Orléans.
Oui,
enfin, à côté.
Oui, juste à côté, Fleury-les-Aubrais.
Et quand vous êtes arrivés, vous aviez déjà cette idée de cuisine, cette...
Ce rêve-là... J'avais ce rêve-là quand on était à Damas. Je rêvais d'ouvrir un restaurant. Mais comme on a très bon travail, j'avais peur. On reste... Non. Maintenant, dès qu'on est arrivé en France, de première chose...
On repart de zéro. On recommence tout.
Oui. Donc, mais après, on cherche. C'était trop difficile, trop cher. C'est très compliqué, donc... on a laissé tomber un petit peu et donc j'ai commencé de faire des festivals, être le premier chef à la résidence et comme ça. Et à ce moment donné, on a eu un message que ce restaurant, peut-être, on peut y avoir. Et on a proposé l'offre au tribunal. Après un mois, il nous demandait de venir pour voir le juge. Et il nous dit que j'ai lu votre parcours, les deux, et je suis confiant et j'espère que vous allez réussir en France. Et je vais vous donner ce local en espérant que vous allez faire quelque chose. Et...
Je crois, hein.
On est sorti au tribunal. Oh là là, c'est quoi ça? C'est un très bon restaurant, très beau local. Rue Payton.
À deux pas de la cathédrale.
À côté de la cathédrale. Deux salles, grande cuisine. Donc, c'est un rêve.
Vous faisiez quoi comme métier en Syrie?
J'étais dans l'administratif médical.
D'accord. Ça vous manque pas?
Bien sûr, pour quelques mois, quand on est arrivé ici, oui, oui. Pour ça, j'ai décidé pour faire master en management, parce que c'est mon domaine. J'ai fait master et à la même temps, je aide notre...
Master et maître d'hôtel.
Oui.
C'est comme ça qu'on dit. Maître d'hôtel, puisque madame accueille en salle, c'est ça?
C'est maître d'hôtel et restaurant et notre vie. Notre famille, c'est la gérante.
La gérante de la vie, de la famille, du restaurant.
Et l'époux. Époux. On dit l'époux.
L'épouse,
oui.
Le cœur de Nabil.
Tout à fait.
Alors ça, qu'est-ce que c'est?
C'est une grillade de langue de bœuf à la façon pastrami, fumée. Avec le confit de bœuf qui était mijoté au four pour 12 jours.
12 jours. Waouh. En Syrie, ils ont des techniques folles. C'est bon ça. J'aimerais bien. 12 jours, bah, c'est fermenté. Hein. Donc pendant.
Donc, oui, confit à 12 heures à basse température. On est arrivé.
Oui. Et donc ça va juste.
On va goûter deux types de viande, deux types de cuisson au sel, cuisson au confit. Et de saveurs différentes, avec du mousse de damas, nouveau petit pois. À côté, il s'appelle Mahamara, c'est du noix et la pâte de poivron. La sauce, c'est à la base de estragon et le petit pois aussi.
D'accord. Le bœuf, tel que vous le faites là, c'est une cuisson que vous feriez en Syrie. Ou c'est une invention?
Non, en Syrie, on mange chaque chose dans un plat différent. Donc j'ai fait le mariage entre deux recettes pour goûter les deux goûts différents d'un même plat. Et maintenant, sur le planchard, on fait griller pour ajouter un petit peu de croustillant autour. Donc on mange très fondant au cours, très très fondant, très très cuit, comme le beurre. Et autour, on va avoir un petit crispy couché autour.
D'accord. Waouh. Il cuisinait déjà à Damas, chez vous?
Oui, toujours. Toujours, il a son passion.
Donc là, on est dans un autre cadre. C'était une grande maison, là où vous habitiez.
Oui.
Donc il y avait la place pour pouvoir exprimer sa passion.
Quand je faisais le fromage, j'ai acheté 100 kg de lait cru et elle n'était pas contente du tout quand j'ai sali toute la cuisine à préparer le fromage. Et de longues préparations.
Mais c'est quel fromage que vous faisiez?
Par exemple, quand le pire, c'était quand je faisais un sort de gouda, mais du lait de chèvre. Et j'ai acheté dans une ferme 100 kilos de lait de chèvre. Et j'ai acheté une marmite spéciale. Je n'étais pas contente. Ah, c'est quoi ça?
Il y a des fois, il doit aller pour le travail, continuer son travail. Mais le fromage, il a besoin de quelqu'un qui... Oui, Susanna, viens. Il faut continuer à tourner.
Tourner le fromage.
Oui, tourner le fromage, oui. Maintenant, il faut le mettre au frais. Maintenant,
il faut couper. Il faut un petit peu mélanger.
Wow. Ouais, donc, passion dévorante. Le pastrami, vous en faisiez déjà? Vous faisiez de la charcuterie déjà?
Charcuterie séchée, oui. Plus que le pastrami, c'est un sort de charcuterie, mais c'est frais. Donc, on prépare, on consomme dans un mois. Mais il y a un autre type de charcuterie qui on prépare, on mange dans 6 mois ou 1 an. Comme le jambon de
Bayonne.
Oui, par exemple, les saucissons comme ça.
D'accord. Oui. Et c'est des saucissons ou de la saucisse qui a des épices ou oui, c'est quoi sa particularité?
Ça dépend le type. Par exemple, je faisais les façons bacon avec le mouton et je faisais le jambon avec le mouton, cuisse de mouton, gigot de mouton. J'utilisais beaucoup plus de épices quand on mariait plus avec le mouton. Le mouton en Syrie, il a un goût différent, pas comme le mouton on mange en Europe. Et en Europe, il y a un goût un petit peu fort. Notre oignon, c'est une autre race, mais un autre goût et c'est plus subtil. Il n'y a pas de goût fort de oignon.
Et ça, on peut pas. Est-ce qu'on peut trouver en France ce type de mouton?
Non. Ce type de mouton, il peut pas retenir le froid. Oui, mais c'est. J'ai lu plusieurs fois dans Wikipédia, c'est un des meilleures races au monde là. Dans notre culture en Syrie, il existe le chameau. Pas beaucoup, mais il existe la viande de chameau. Et je faisais beaucoup de charcuterie, pastrami, à la base de viande de chameau. Et c'était très bien.
Et en termes de goût, le chameau?
Le chameau, un petit peu plus salé, mais très subtil. Et il n'y a pas de gras. Et c'est une viande maigre.
D'accord. Et on ne mange pas les animaux femelles, plutôt les animaux mâles?
Plutôt mâles. on mange les femelles quand elle peut plus faire de bébés ou ils peuvent plus faire le lait. D'accord. Comme la vache, on mange pas la vache. La vache, on considère la vache ou le femelle de agneau ou au mouton, c'est quand un seconde viande. C'est pas personne qui veut manger ça.
On descend.
Allez.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Dernière danse, Indila, vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde sur RFI. Nous avons la chance d'être accueillis par Nabil Attar et sa femme Susanna dans leur restaurant Narenge à Orléans, dans le centre de la France. On a déjà mangé, en fait, on a goûté un peu de votre cuisine. Nabil, quels sont les plats qu'on a dégustés ?
On a commencé aujourd'hui de goûter le caviar d'aubergine fumé au bois avec de la grenade et pousse de radis et sésame noir. Je l'ai grillé au barbecue. Et à la fin, je mets un petit morceau de pois de pommier qui était trempé dans l'eau pour parfumer un petit peu du parfum de pois fumé.
Et c'était délicieux.
Merci.
Et donc, une viande en deux façons qu'on a pu déguster.
Oui, la viande de deux façons, c'est un plat que j'ai...
Imaginé,
oui, pour faire goûter dans la mission prochaine dans le Refugee Food Festival 2019. C'était un festival qui était créé par Food Sweet Food. C'est une association avec...
avec l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés.
Oui. Ce festival, c'est changer le regard pour les réfugiés et aussi aider les chefs réfugiés à trouver du travail et partager la cuisine qui, à mon avis, c'est un langage universel.
Ça a été votre point d'ancrage en France quand vous êtes arrivé. Vous l'avez raconté quand on était dans la cuisine, que vous vous êtes dit, quitte à changer de vie radicalement, autant vivre pleinement la passion qui était celle que vous aviez déjà en Syrie. Comment est-ce que vous vous êtes inscrit justement ?
Une fois, j'étais sur Facebook chercher. Je suis tombé sur le festival de 2016, la première édition. J'ai essayé de contacter le Refugee Food Festival en disant que je ne suis pas un chef, mais c'est une passion. Je cuisinais beaucoup à Damas, dans des restaurants de mon ami, et j'ai cuisiné pour beaucoup de monde comme un hobby. Et après, ils m'ont accepté de participer. On a participé avec Susanna trois fois dans l'émission 2017. On a créé une nouvelle recette avec le mousse.
Avec le houmous.
Avec le mousse. Et Susanna, elle a fait avec une glacière de la Corse. On a proposé la glace de Damas avec la glace de la Corse.
Susanna, vous ne m'aviez pas dit ça? Alors, cette glace, elle avait quel goût?
On a fait notre glace avec la farine d'orchidée. C'est le spécial, la glace spéciale de Damas. Et j'ai fait ça avec le baklava et le pistache grillé.
Il y a évidemment la question de la langue.
Vous le disiez, la cuisine vous a permis d'échanger. Comment s'est passé votre apprentissage du français ?
Pour les enfants, c'est très facile. C'était plus facile quand pour nous. Peut-être parce que les enfants, ils absorbent la langue. Ils n'ont pas besoin pour traduire. Pour nous, non. Pour moi, c'était pas facile pour apprendre le français. Mais petit à petit, avec les pratiques...
On se débrouille.
Oui.
On y arrive. Bah oui, clairement, vous y arrivez. Arrivé en 2015 en France et vous avez un français tout à fait maîtrisé. La télévision, c'est une arme fidèle, contrairement à la radio, je crois, Nabil.
Oui, quelqu'un il nous a dit que pour apprendre la langue, il faut regarder la télévision. Parce que la télévision, il y a un mouvement, il y a des gestures.
Oui, des gestes, on voit les gens évoluer.
On peut faire le lien entre les gestes et le mot. On peut apprendre une nouvelle langue par regarder les films sans traduction en bas. Et vraiment, on a commencé à... Le premier mois, on a compris de rien. Le deuxième mois, on a commencé à quelques mots ici et là. Et tout le monde nous a dit que la radio, c'est très compliqué parce que tout le monde parle très vite. Et je me souviens bien que... Un professeur, il m'a dit, sauf il y a une émission sur RFI, c'est les
français
facile, oui. Comme tous les métiers, il y a des vocabulaires très particuliers dans chaque métier. Donc, si on connaît la betterave, c'est quoi en anglais ou c'est quoi dans notre langue, mais la betterave, c'est il faut connaître le nom. C'est quoi la betterave? Donc c'est le premier, c'était un petit peu difficile pour faire le lien entre tous les vocabulaires qu'on a besoin.
La première étape.
En commençant les vocabulaires de ce métier, après on trouvait aussi les producteurs et comment on peut gérer, parce que si on sait cuisiner, c'est tout à fait pas la même chose à gérer un restaurant ou gérer une cuisine. Et heureusement, le premier mois, j'étais le premier chef à la résidence.
Donc la résidence qui est le restaurant vraiment installé à l'année du Refugee Food Festival, pendant 6 mois,
oui.
Un chef et vous le premier à Grand Control, peut justement s'entraîner, on peut dire, se préparer à l'ouverture de son restaurant. Donc c'était un entraînement grandeur nature.
Et là, j'avais appris beaucoup de comment on peut trouver les producteurs. Il y a des règles d'hygiène qui, spécifiquement pour la France, qu'il faut respecter. Comment on gérait la procédure dans la cuisine. C'est des choses, c'est relié directement avec les règles françaises.
Ouais, c'est tout un apprentissage.
Oui.
Vous avez été accompagné tout au long de ce processus par un chef.
Oui,
Stéphane
Jégo, oui.
Qui est le chef du restaurant L'Ami Jean à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Un chef exigeant, je crois, qui salue votre parcours. Je vous propose de l'écouter.
Quand tu vois Nabil qui se bat justement pour pouvoir rentrer avec ces codes-là dans la gastronomie, on le regarde plus maintenant comme un réfugié qui a pris un restaurant ou comme un simple réfugié. On le regarde comme un chef cuisinier. On vient de le faire rentrer au Collège culinaire de France, pas parce qu'on l'a sponsorisé ou pas parce qu'on l'a aidé. Non, simplement justement... J'étais encore plus drastique avec lui qu'avec les autres. C'est qu'il est rentré avec des vrais codes gastronomiques. Et ce mot gastronomique, vraiment, je le martèle, parce qu'on n'est pas simplement à faire que de la cuisine, on est vraiment à pousser les personnes dans l'excellence de ce métier. Et ça, c'est extrêmement important. Et le challenge, je pense que pour toutes ces personnes qu'on accompagne, est encore plus difficile, parce qu'on table vraiment sur l'excellence, que peut-être nous, en France, des fois, on se laisse aller sur une certaine facilité. Et je pense que l'excellence... C'est ça qui fait la vraie différence. On va pas aller chercher son houmous tout fait dans une grande enseigne. On va aller chercher le producteur de pois chiches pour faire son houmous. Et là, le regard de l'autre est complètement différent. Faut pas oublier que c'est plus facile de raconter une histoire avec quelqu'un derrière, que ce soit réfugié, pas réfugié, personne en difficulté, que d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Dans le sens où la personne, Nabil, va aller raconter son histoire. Là, il travaille avec Laure Fourca, qui fait des fromages de chef d'exception, qui est complètement dans l'excellence. Elle m'appelle, elle me dit « qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je peux ?» Je dis « mais bien entendu, pourquoi tu ne pourrais pas ? C'est un cuisinier au même titre que moi, je suis cuisinier, et je te garantis que tes fromages seront respectés parce qu'il est dans l'excellence. »
L'excellence, l'exigence, est-ce que c'est important?
Oui, Stéphane, il a insisté toujours la qualité. J'ai posé une question à lui dès qu'on a commencé à trouver le restaurant. Il m'a dit, Nabil, attention, la qualité, la qualité, la qualité. C'est la clé du succès et c'est toujours, toujours, il faut y penser la qualité.
C'est ce qui vous distinguera. Du coup, vous avez commencé à travailler avec des producteurs locaux, vos approvisionnements. Comment est-ce qu'ils se sont dessinés? Comment vous avez fait?
Avec le soutien de Collège culinaire de France, j'arrive à trouver des producteurs locaux proches de nous ou de producteurs artisanaux de qualité un petit peu loin. Avec le produit supérieur, vraiment, on peut proposer quelques cuisines de qualité aux non-clients. Ça fait vraiment la différence dans notre cuisine.
Vous l'accompagnez, Susanna, dans ses recherches? Vous allez goûter, découvrir, vous aussi? Vous mettez votre grain de sel?
Oui, bien sûr. Quand on cherche pour le producteur ou pour nouveaux recettes au plat, je l'ai accompagné pour cette journée.
Parce que vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, maître d'hôtel, on peut dire ça. En tout cas, vous accueillez les clients dans la salle, vous leur expliquez un petit peu aussi la cuisine de votre mari. On arrive aussi chez Narenj en se disant, on va manger la cuisine syrienne sans forcément la connaître. Quelles sont les questions fréquentes ou les plus étonnantes qu'on vous pose?
Il y a beaucoup de questions que les clients curieux pour poser quand ils viennent chez nous. La première question, c'est cette plat, c'est typique de Damas? Vous mangez le même au Damas, au différent? Les légumes, ils existent en Damas? Oh non, les épices.
La fameuse betterave, je crois. Hein?
La salade.
La fameuse salade. Donc, quand je dis la fameuse, carotte, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit la fameuse, pourquoi?
Une cliente, elle m'a dit que. Il n'a jamais pensé que la betterave existe dehors Europe. J'ai dit oui, madame, la betterave, ça existe comme la carotte. Elle m'a répondu, la carotte aussi, vous l'avez à Damas, c'est oui. Et le tomate, la salade. Et on a du volaille, on a du canard, on a du poulet, on a du bœuf aussi, on a des cailles. Bien sûr, on n'a pas des huîtres. Mais la plupart des légumes, si, ça existe par presque tout le monde.
Ça vous étonne qu'on puisse se poser ce genre de questions?
Ça nous fait plaisir parce qu'ils sont curieux. Elles voulaient bien savoir et découvrir et voyager. Et ça nous donne aussi une idée que nous partageons avec nos clients l'expérience culinaire qu'on essaie de lui apporter.
C'est une culture que vous arrivez à partager.
Oui.
Il y a une femme qui est très forte pour cultiver et élever des betteraves. Vous savez à qui je pense?
Oui, Hélène.
Hélène Réglin de la ferme d'Artaud. Alors c'est une ferme qui se situe entre Angers et Nantes. On est dans l'ouest de la France, donc à quelques kilomètres quand même d'ici. Hélène qui a eu un parcours de vie aussi, puisqu'elle a changé de métier et changé de vie. Elle est devenue maraîchère. Et elle me parle un petit peu de votre rencontre à tous les deux et de votre relation.
Dès les premières commandes, en fait, j'ai senti chez Nabil beaucoup de respect, en fait, de mes produits. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de super important parce que j'aime bien travailler avec des chefs qui respectent mon travail et qui respectent le produit. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que Nabil, il appelle toujours mes légumes, moi, les bijoux. Voilà, on sent vraiment qu'il les bichonne, qu'il en prend soin. On sent vraiment qu'il y a un profond respect du produit. Et ça, c'est super important.
Ce qui est étonnant dans vos parcours et trajectoires à l'un et à l'autre, c'est que vous n'étiez pas maraîchère il y a quelques années et lui n'était pas cuisinier non plus.
Le fait d'être sur un nouveau métier de manière neuve, finalement, ça nous apporte vraiment un autre regard et aussi une autre sensibilité sur ce que l'on fait. En fait, moi, on me dit souvent, en tant que maraîchère, tu fais des trucs que j'aurais jamais pensé à faire, tout simplement parce que je n'ai pas de formation technique à proprement parler et que je fais les choses au feeling. Et je pense que pour Nabil, c'est pareil en fait. Il a ce regard neuf en fait sur le métier. Et c'est pour ça qu'il est très curieux aussi. Et moi, je le sens par rapport aux produits, aux légumes. Il a cette curiosité de vouloir comprendre le produit, de vouloir découvrir aussi d'autres choses. Et ça, c'est super important parce que c'est justement cette curiosité-là qui amène finalement à se poser des questions différemment et puis à essayer des choses. Et c'est en essayant des choses finalement qu'on découvre des choses extraordinaires, quoi, la plupart du temps.
J'imagine aussi que c'est un partage des cultures parce que lui fait une cuisine syrienne.
Oui.
Vous êtes une maraîchère de produits français. Comment est-ce que justement ce mélange et ce partage s'opère? Est-ce qu'il a un légume qu'il affectionne tout particulièrement, qui est un légume qu'on utilise en Syrie par exemple?
Alors ben, je sais qu'il aime beaucoup les betteraves, je sais qu'il est fan. mais en fait, ce qui est aussi très intéressant pour moi, c'est que finalement, comme parfois il a besoin que j'explique les légumes, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a certains légumes que tout simplement il n'y connaît pas, moi ça me pousse à moi-même à être beaucoup plus précise sur la description de mes produits, sur le goût de mes produits. Donc ça me pousse finalement à aller beaucoup plus loin moi-même. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça nous apporte à l'un et à l'autre finalement un regard encore différent. C'est vraiment une relation qui sert l'un et qui sert l'autre en fait. Hein. Mais c'est comme ça qu'on voit un échange. Là où ça a vraiment du sens entre cuisinier et producteur, c'est qu'à un moment, il y a une interaction finalement.
L'un des buts du Refugee Food Festival, c'est de changer le regard sur les réfugiés. Est-ce que quand vous pensez à Nabil Attar, est-ce que vous pensez à un réfugié ou à un chef cuisinier aujourd'hui?
Ah non, moi je pense à un chef avant tout, hein, un chef qui aime découvrir des choses. Et je pense que Nabil, en fait, il est vraiment qu'au début, en fait. Je pense vraiment que Nabil, il va faire de grandes choses plus tard et qu'il est vraiment qu'encore en phase de découverte des choses. Ça, c'est chouette, en fait. On sent que ça lui fait plaisir de recevoir mes légumes. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que, voilà, j'aime bien dire, en fait, que j'élève des légumes. Finalement, mes légumes, ils ont un peu de mon histoire en eux. La cuisine de Nabil, elle a un peu de son histoire en elle. Et finalement, c'est ce que le client va ressentir à la fin, en dégustant l'assiette. C'est un peu ce mélange de toutes ces histoires, ce qui donne vraiment à la nourriture, finalement, un supplément d'âme.
Un supplément d'âme. Cette collaboration avec Hélène Réglin, avec Madame Fourcade, dont parlait tout à l'heure Stéphane Jégot, c'est important pour vous, cette reconnaissance mutuelle, que le réfugié s'efface pour laisser la place au chef, au cuisinier, Nabil?
Oui, tout à fait. C'est le message que je voulais faire passer, que on peut partager notre culture et notre cuisine avec les très bons produits, comme les produits de Hélène Ferme d'Artaud. C'est vraiment quand les produits arrivent ici au restaurant, j'ouvre la boîte, je sens l'odeur de la terre, je mange tout comme ça, chaque légume, chaque herbe qu'elle m'envoyait. Donc avec tous les produits français, produits supérieurs de qualité, et notre saveur et savoir-faire de notre cuisine, bien faire le mariage entre les produits et notre cuisine et proposer quelque chose de bien à notre client. Et c'est la façon aussi de changer le regard aussi aux réfugiés.
Susanna, vous avez le sentiment, vous aussi, que ce regard, il a changé?
Oui, bien sûr. Quand les clientes viennent pour faire le voyage chez nous, quand ils viennent, c'était pas le même quand ils sortent. Il y a des curieuses dans son personnalité pour connaître quelque chose ou pour... Il posait les questions. Je suis là pour répondre avec petit sourire,
expliquer. Syrie, on mange avec des couverts. Ça, c'était une histoire que vous m'avez racontée tout à l'heure. Est-ce qu'on a des fourchettes et des couteaux? Oui, tout à fait.
Oui, il y a des questions. Oui, il y a des questions. Mais j'ai bien choisi les bons répondre parce que c'est normal, c'est curieux. Et quand ils s'en sortent de chez nous, avec les réponses, il a dit, maintenant on a commencé pour changer notre regard. C'était pas les mêmes.
Ils s'en vont en se disant, c'est bon, j'ai découvert, j'ai fait un voyage, je reviens
et je reviendrai. Tout le monde. Quand j'ai dit au revoir, il a dit non, à bientôt, on revient.
À bientôt. Oui, parce que c'est ça, là, du coup, toute la curiosité s'efface au profit de votre cuisine. Vous avez inventé des nouveaux plats, vous êtes lancé dans des nouvelles improvisations depuis que vous avez ouvert Narenge.
Oui, l'innovation, ça termine pas. Donc, chaque deux jours, on se parlait, moi et Susanna. OK, c'est quoi le nouveau plat? On pense de faire comme ça, marier avec ça. Toujours l'amélioration, les nouveaux plats, les nouveaux cartes. On essaie de changer la plupart des plats chaque deux semaines, trois semaines. Ça dépend de la saison aussi. Dans l'hiver, on a moins changé parce que les légumes, c'est un petit peu difficile de travailler. Mais maintenant, ça commence, le petit pois, les asperges, tous les légumes de printemps.
Les légumes de saison. Vous êtes attaché aux légumes de saison.
Oui, donc maintenant, on a plus de choix. Il faut bien, on dit courageux, pas timide à proposer quelque chose de nouveau au client.
Être audacieux.
Oui, c'est ça. À proposer quelque chose, c'était jamais proposé, par exemple, en avant pour voir. On commence à faire déguster et après, on proposait sur le menu.
D'accord, ça y est, vous osez, maintenant vous vous lancez. On m'a parlé, alors peut-être que c'est faux, je ne sais pas, d'une glace sucrée au friquet.
Oui, j'ai fait une dégustation. C'est une glace à la base du blé vert. Ça ressemble un petit peu, peut-être les gens connaissent la glace au sarrasin ou le blé noir. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer une glace au blé vert. J'ai fait quelques dégustations et c'était très très bien marché.
On va la retrouver sur la carte alors, du coup, cette
bientôt.
Glace au blé vert.
Bientôt.
Et il y a des plats comme ça qu'il est important pour vous d'avoir à la carte. Est-ce que c'est une cuisine syrienne que vous faites ici?
On propose tous les saveurs authentiques dans notre cuisine, tous les saveurs, on garde tout. Mais je fais marier, par exemple, deux plats où je revisite le même ingrédients, mais par exemple la carotte en cube, je fais une sauce avec. Donc les saveurs, elle est là, mais la prestation, c'est différent. Tous les plats, c'est revisité, presque, oui.
Pour adapter.
Adapter le visuel aussi, ou peut-être dans quelques années, ça va être mes plats, ça va être un nouveau recette syrien. On peut cuisiner aussi en Syrie. Ici, au Naringe, on propose la cuisine plus familiale, c'est-à-dire ces plats-là, on mange chez la grand-mère, chez la mère. C'est pas des plats qu'on trouve dans les restaurants à Damas. Les restaurants à Damas, c'est presque le même. On propose la même façon du qu'on propose dans les restaurants libanais. Donc c'est les mezzés, c'est les grillades, c'est le mousse, c'est le mutabal, c'est comme ça. On veut vraiment proposer les plats qu'on trouve, on mange en cuisine chez nous, pas au restaurant.
Sur un air de Makam Bayat, interprété par Mounir Bachir sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde avec Nabil Attar, le chef cuisinier syrien du restaurant Narenge à Orléans, et sa femme Susanna. Enfin, c'est une cuisine à quatre mains, j'ai l'impression, parce que depuis le début de cette émission, on comprend bien que les idées sont partagées, exprimées par les mains de Nabil, mais elles sont largement partagées. Comment est-ce qu'elle a évolué, la cuisine de Nabil?
Nabil, il a la passion pour cuisiner. Et il est très intelligent pour trouver les liens entre son passion et changer le passion pour métier. Maintenant, c'était pas le même. Quand les personnes, il a une passion, c'était pas le même pour transférer la passion pour être le métier, le travail pour chaque jour. Parce que la passion, quand vous avez un hobby, peut-être vous avez fait ça une fois par semaine, pas chaque jour. Et une fois par semaine pour votre
plaisir.
C'était pas pour trouver le plaisir pour les autres. c'était difficile. C'est-à-dire, il a fait beaucoup de choses pour trouver ce petit lien. Petit lien, mais c'est fort.
Je ne sais pas si on peut le dire. Parce qu'on a, vous avez eu une très très bonne nouvelle, je crois. Est-ce qu'on a le droit de le dire?
On vient d'acquérir la nationalité française.
On a bien de mériter la nationalité française.
Honoré. On était honoré d'avoir la nationalité française.
Et ça, ça fait quoi?
C'est un grand honneur pour nous, pour avoir une patrie. Maintenant, la France, c'est notre home.
Notre foyer.
Notre foyer.
Susanna, vous avez un grand sourire. Ça, j'imagine que c'est... Tout à l'heure, en fait, c'est drôle parce qu'on en parlait et vous nous l'avez dit comme une surprise. C'est l'espèce de cerise sur le gâteau.
C'est un achèvement en soi. C'est plus que ça. C'est une reconnaissance que la France, il nous a acceptés, accueillis. C'est une médaille que la France nous a donné ce honneur à être un de citoyens français. J'aimerais qu'on va participer dans la société française et grandir nos fils à être de très bons citoyens en France.
Dans l'avenir, vous imaginez de retourner un jour en Syrie ou ce n'est pas quelque chose auquel
il
vous...
Il y a deux choses ici. Le premier, on aimerait pouvoir aller là un jour pour visiter, mais on ne peut pas le faire dans l'avenir, quelques ans, on ne sait pas encore. Mm. Ça, c'est une chose un petit peu compliquée.
Difficile de l'imaginer.
Difficile de l'imaginer, difficile à faire aussi.
À concrétiser.
Ouais. Pour notre histoire, oui. Mais maintenant... France est notre pays. On va continuer notre vivre ici, grandir, tout ça. On commence quelque chose pour continuer.
Les commentaires que l'on fait quand on découvre votre cuisine, puisqu'il y a pas mal de vos clients qui doivent découvrir la cuisine syrienne par la même occasion, quels sont les étonnements?
C'est le moment que je descends à la fin de service pour rencontrer les clients. Dès que je commence à parler avec eux, j'oublie tous les heures de préparation cuisinier. Et quand ils commencent à parler, poser les questions, dire qu'ils aiment beaucoup, comme il était raffiné, comme ça, ça nous donne l'encouragement, la force à continuer et proposer plus et plus et plus, mieux et mieux et mieux.
Est-ce qu'ils sont surpris parfois? Parce qu'il y a aussi des saveurs qu'on ne connaît pas du tout, Susanna.
Oui, oui. Il ne sait pas c'est quoi la cuisine syrienne. Peut-être les mezés, il sait. Même les mezés, notre hummus, notre moutapal, tout le monde, il a dit, non, ce n'était pas le même. je ne sais pas, peut-être...
L'ambiance,
peut-être, donne un petit peu d'échange.
Est-ce qu'ils sont surpris par ces saveurs-là? Est-ce qu'on vous dit, c'est incroyable, je découvre?
Le plus commun commentaire ou avis, il me dit, on connaît chaque saveur, mais pas tous ensemble comme ça. C'est un mariage de saveurs qu'on n'a pas l'habitude à manger.
Il y a une question des vins aussi, que l'on boit, qui accompagne le repas. Comment faites-vous pour retrouver justement ce mariage entre les vins syriens qui ont un goût bien particulier, et les vins français? Vous faites comment, ce mariage-là?
Le cépage, ça change de région et de l'autre. Donc, le même cépage qu'on a en Syrie, il a un goût un petit peu différent. Trouver le vin français qui se marie, ça va avec les plats, je goûte beaucoup chez le producteur. Quelquefois, j'apporte une bouteille ou deux et je fais des tests avec chaque plat. Et après, à la fin, on sait qu'on propose ce vin-là avec ce plat-là, les entrées avec ce vin-là, et on fait comme ça le mariage. Et le vin français, je connais bien avant, c'est le plus connu au monde. Et dans chaque région, il y a des notes spéciales qui marient très bien avec des éléments de notre cuisine.
C'est toute une recherche. Hein. On voit l'excellence jusqu'au bout des doigts. Susanna, quel est le goût qui évoque pour vous la Syrie? Quand vous l'avez dans l'assiette, vous dites, ça y est, je suis en Syrie.
Kebbeh la banie.
Traduction.
C'est yaourt, le kebbeh avec yaourt. Yaourt cuit.
Avec le yaourt cuit.
Oui.
Et vous, Nabil?
Yaourt cuit. Et moi, c'est toujours le friquet. Ça me rappelle l'odeur et les et aussi il y a une épice poivre de Jamaïque. Ma mère, il l'utilise toujours dans la cuisson de viande. Et quand j'étais en Syrie, j'ai dit non, j'aime pas ça. Il faut pas ajouter dans le jus de bœuf. Il faut arrêter. Non. Et maintenant, j'ai commencé à utiliser dans presque tous les plats de viande rouge. C'est pas à moi, c'est le Proust, Madeleine de Proust, non. Mais ça ressemble
à la Madeleine de Proust. Avec un petit peu quand même d'orange amère.
Oui.
On est d'accord.
Pistache grillée. Voilà. Ça donne un petit peu de...
Le rappel à
Damas.
Oui, l'odeur de pistache. Quand je torréfiais la pistache, l'odeur qui sort, c'est magnifique.
Adorable.
Aussi.
Oui.
La madeleine de Proust, pour moi, c'est quand j'ai fait cuire la betterave rouge et je coupe, ici, ça m'a apporté chez ma mère dans la nuit d'hiver, quand elle fait cuire la betterave. Qui existe aussi en Syrie. Et ça, ma Madeleine de Proust.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Susanna.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nabil. Merci de votre accueil et de votre confiance.
Au plaisir.
Narenj est à Orléans, 178 rue de Bourgogne. Pensez à vous arrêter et à réserver. Et oui, parce que c'est la table qui monte et qui a beaucoup de succès. Donc, elle est souvent complète le soir, et tant mieux. Merci aussi à Stéphane Jégot et à Hélène Réglin de la ferme d'Artaud, à Marine Mandrila et Louis Martin qui ont mis sur pied cette formidable association et le Refugee Food Festival. Racontez-nous ce que l'histoire de Nabil, de Susanna, de leur famille vous inspire, avec vous, autour de vous, des amis proches qui ont dû fuir peut-être et se réinventer ailleurs. Racontez-nous sur Facebook et WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Julien Maguarou et Cécile Bonissi qui ont réalisé et mis en onde cette émission. Vous pouvez la partager, la podcaster, la commenter. On adore vous lire, je vous l'assure. Merci à Kalilou Terira, fidèle de la première heure du Goût du Monde, pour ses vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.
C'est délicieux.
Ouais.
Mais c'est cette fondance-là de la viande. Ça, c'est les deux jours.
C'est vraiment deux jours, mais pas cuisson, au sel.
Donc, c'est la langue de bœuf.
Langue de bœuf.
Donc, c'est une salaison dans le sel. Donc, une cuisson 12 jours dans le sel. Et ensuite, c'est confit pendant 12 heures.
Mijotez rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.
Musique du monde.